BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, notre globetrotter Ben Aoud Abdelhaïm pour sa revue mondiale de toutes les études publiées récemment. Et puis notre bibliothécaire Eva Jacquot qui poursuit cette saga Paul Loup-Soulitzer que nous avons décidé donc de remettre sous le feu des projecteurs. Mais tout de suite, on démarre avec nos invités. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Le changement climatique, la crise du Covid, la guerre en Ukraine ont remis l'alimentation au premier rang de nos préoccupations. Comment préserver notre autonomie alimentaire? Quels modèles agricoles vont permettre de nourrir les hommes sans abîmer davantage la planète? Réponse avec nos deux invités qui, vous allez le voir, vont nous proposer deux visions. Alors, je ne sais pas si on peut les qualifier d'antagonistes, mais en tout cas, deux regards complètement différents justement sur l'avenir de notre agriculture, et c'est ça qui les rend passionnants. Alors une vision que je vais qualifier plutôt pragmatique, confiante dans la capacité des paysans et de l'innovation à relever le défi d'une agriculture plus performante et plus verte, c'est celle de Sylvie Brunel. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Sylvie, vous êtes professeure de géographie à la Sorbonne et vous publiez « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre » chez Buchet-Chastel. Et puis, une autre vision, plus systémique, qui défend, elle, plutôt un changement radical de modèle, c'est celle de Mathieu Calam. Vous la qualifiez d'utopie réaliste, votre vision qu'on va, largement détailler. Mathieu Calam, vous êtes agronome, directeur de la fondation Charles-Léopold Meyer et vous publiez La révolution agroécologique. Se nourrir demain, c'est dans la collection La République des idées aux éditions du Seuil. Sylvie Brunel, je commence avec vous. Alors, votre livre, clairement, c'est d'abord un cri d'amour pour les paysans.
Oui, un cri d'amour et un cri d'alarme. Cri d'amour parce que j'ai travaillé longtemps dans les organisations humanitaires où nous étions systématiquement confrontés aux crises alimentaires. Et puis un jour, je suis arrivée en France, je suis revenue en France et j'ai été extrêmement choquée par l'écart qui séparait l'excellence de l'agriculture française, tout ce qu'elle mettait en œuvre pour répondre à nos attentes de sécurité alimentaire, mais aussi de verdissement. Et puis, les critiques incessantes dont ils étaient l'objet, ces espèces de ricanements ou de renvois à des micro-modèles de pénibilité.
Vous dites jamais on a eu autant besoin des agriculteurs, jamais on ne les a autant maltraités.
Oui, je suis extrêmement marquée par le fait que qu'il s'agisse de la question de l'eau, des traitements, de la pénibilité du travail, des relations avec l'énergie et puis surtout de la question nourricière, nous ne savons plus ce qui se passe dans les campagnes.
En fait, vous dites, ils sont souvent considérés comme le problème, alors qu'en fait, c'est eux qui ont toutes les solutions.
Ce sont les solutions, bien sûr. Ils ont les solutions parce que non seulement ils assument une fonction nourricière, mais comme ils sont pleinement engagés dans la révolution agroécologique, mais je ne veux pas empiéter sur ce que dira Mathieu dans quelques instants, eh bien, ils assurent aussi la fourniture de chimie verte, ce qu'on appelle le biosourcé. Ils assurent aussi les énergies renouvelables. Ils stockent le carbone dans les sols par des bonnes pratiques. Ils se préoccupent du bien-être animal et ils diminuent de plus en plus l'usage de ces fameux produits de traitement dont nous ne voulons plus, en ayant oublié quand même que les contaminations bactériologiques continuent d'endeuiller l'humanité.
Alors vous avez quand même une cible qui vous agace particulièrement. Enfin, il y en a deux. Il y a ce qu'on pourrait appeler, franchement, allez, on va dire les médias de gauche, ou les médias un peu bobos, les médias un peu étatiques, et puis pareil, les bobos qui sont des écolos de salon, quoi, en fait. Alors cela, vous pouvez pas les supporter. Vous dites, en gros, ceux qui glorifient les petits jardiniers par rapport aux gros agriculteurs, sans réaliser que finalement les petits jardiniers, ils ne nourrissent personne, que leur généralisation serait un drame pour notre sécurité alimentaire et que ces jardiniers finiront dans la précarité absolue alors que nous n'aurons plus rien dans nos assiettes.
C'est très bien résumé. Le problème,
c'est vous qui l'avez écrit, hein, je vous cite.
Non, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est mieux dit par vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on écoute effectivement des personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans les campagnes, on entend préconiser des petits modèles alors que déjà le monde agricole peine à recruter de la main-d'œuvre. Les gens veulent plus aller défricher la terre. Et puis surtout, on a l'impression que tout ce qui est petit, tout ce qui est traditionnel est bien. Mmh. Et pour le reste, on parle d'agriculture productiviste, mais ce n'est pas vrai. En France, l'agriculture reste familiale, ce qui ne l'empêche pas de répondre à un grand nombre de défis, sachant qu'en même temps, cette agriculture, elle est en train de dévisser, justement parce que, faute de reconnaissance, faute de respect, les producteurs agricoles se découragent. On est en train de désagriculturaliser la France, comme on l'a d'ailleurs avant désindustrialisée, et comme on a commis aussi beaucoup d'erreurs dans l'énergie sur lesquelles on est en train de revenir.
Alors, vous, pour donner un ordre d'idée justement sur cette espèce d'illusion que des toutes petites exploitations pourraient nourrir finalement des grandes villes, vous dites la nourriture locale, c'est à peu près 2% de la nourriture qu'il est nécessaire de fournir aux grandes métropoles.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les grandes métropoles, c'est le rapport du sénateur Gillet, ne s'approvisionnent localement qu'à concurrence de 2% de leurs besoins. Et je continue, si la Bretagne passait en circuit court, elle n'utiliserait que 7% de sa production, mais Paris mourrait de faim parce qu'il n'y aurait pas Rungis. Donc il faut bien comprendre que la sécurité alimentaire, ce sont les échanges. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas associer les modèles. Ouais, dans les projets alimentaires territoriaux, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut arrêter de penser que les gens vont revenir cultiver la terre comme leurs ancêtres.
Alors même chose sur la chimie, hein. Vous dites, en fait c'est incroyable qu'on autorise plein de choses dans la vie quotidienne, même pour les animaux domestiques, et qu'on interdit finalement les mêmes traitements aux paysans pour les animaux qu'on va manger.
Oui, il y a plein d'exemples, mais nous on utilise le terme de pesticide qui est tout de suite péjoratif. En fait, ce sont des médicaments pour les plantes et les animaux. Leur usage ne cesse de se restreindre parce qu'ils coûtent cher et que l'agriculteur ne les applique pas pour le plaisir. Mais il faut quand même être conscient qu'ils nous protègent malgré nous de maladies dont nous avons oublié l'existence et qui continuent de faire des ravages dans les pays du tiers-monde, comme les mycotoxines.
Est-ce qu'on risque de manquer de nourriture un jour ?
Eh bien oui. Oui, on risque de manquer de nourriture parce qu'on se rend compte que la production agricole baisse, par exemple dans le domaine de l'élevage. On a perdu plus de 850 000 vaches en l'espace de 15 ans. Il y a de plus en plus de difficultés pour des installations en laitier, par exemple, alors qu'il y a 4 litres de lait sur 10 qui franchissent nos frontières pour nourrir des pays déficitaires. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne dépendent de nos céréales. Nous sommes les premiers exportateurs de semences au monde et notamment de semences de maïs. Mais les producteurs se découragent. Et demain, on voit bien, vos antennes parlent beaucoup en ce moment de l'inflation alimentaire, du problème du panier de foyers qui se serrent de plus en plus la ceinture. Eh bien, on court le risque de perdre cette richesse agricole française aujourd'hui.
Et alors, vous rappelez, en plus, quand on parle de sécurité alimentaire, vous rappelez la loi de King.
Oui, cette loi de King, elle montre que toute variation, c'est même ça, minime, dans l'offre alimentaire, à la hausse ou à la baisse, se traduit par des prix qui n'ont aucune mesure. Ouais. Vous allez avoir une baisse de 5% de production, mais les prix vont être multipliés par 2. On l'a bien vu au moment de la guerre en Ukraine, puisque la Russie et l'Ukraine étaient des gros exportateurs de blé, de maïs, d'huile et d'engrais, et les prix ont explosé.
Parce qu'il y a peu de pays qui font l'équilibre sur les marchés mondiaux.
Il n'y a que 10 pays. En fait, il y a une dizaine de pays qui sont des grands exportateurs de céréales. La France a la chance de faire partie de ces pays. Mais attention, on glisse.
Alors, les solutions, Sylvie Brunel. Vous dites, l'objectif pour arriver finalement à bien nous nourrir et à finalement moins maltraiter la planète, c'est la révolution triplement verte. Vous dites, il faut produire plus, il faut payer mieux les paysans et il faut mieux protéger la nature.
Exactement.
Comment on fait ?
Eh bien, on fait ce que toutes les filières essaient de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire des démarches de transition écologique où elles réfléchissent à toutes leurs pratiques de façon à optimiser l'utilisation des semences, l'utilisation des produits de traitement, l'utilisation des fertilisants. La recherche aussi d'une plus grande autonomie des exploitations, parce que vous le savez, on dépend beaucoup aujourd'hui des engrais importés. Donc, il faut travailler sur l'organique, sur tout ce qu'on appelle le biosourcé. Toutes les filières sont engagées dans cette démarche. Encore faut-il qu'elles soient respectées, parce que l'agriculteur, en fait, il a vraiment l'impression que plus il en fait, plus on lui en demande. Et puis surtout, on l'empêche aujourd'hui de faire appel au génie génétique. Il y a tout le problème de l'eau. Vous savez, toute cette question aujourd'hui, eh bien, du changement climatique. Donc, il faut qu'il soit encore plus résilient, mais on lui interdit de stocker l'eau. Il y a tout le problème aussi de l'usage des traitements en Europe Et dans le monde, on utilise tout un grand nombre de molécules qui sont interdites en France. Donc, c'est compliqué aujourd'hui d'être agriculteur.
Oui, parce que vous le soulignez bien. Vous défendez vraiment la complémentarité de tous les modèles de production. Oui. Vous dites qu'il n'y en a pas un qui est... Mais par contre, moi, ce qui m'a frappé, c'est vous dites, attention, quel que soit le modèle qu'on choisit...
Il faut qu'il soit performant.
Il faut qu'il soit performant et ça demande énormément de connaissances, énormément de technicité, de l'expertise, des technologies de pointe.
Et des prix.
Et c'est pas finalement quelque chose qui est un simple retour à des modes de production antérieurs.
Non, les écosystèmes en fait sont de plus en plus complexes, c'est-à-dire qu'il faut connaître la nature, connaître les sols, connaître l'eau. On a besoin d'outils d'aide à la décision, par exemple les drones ou toute la cartographie satellitaire des parcelles pour pouvoir intervenir juste à l'endroit où c'est nécessaire. Vous savez d'ailleurs que dans le fameux Green Deal de l'Union européenne qui veut réduire de 50% l'usage des phytos, eh bien les nouveaux outils qui permettent une pulvérisation d'ultra précision avec des capteurs intégrés pourraient nous permettre de respecter le Green Deal. Encore faut-il qu'on ait les moyens de mettre en œuvre cette révolution numérique, robotique et génétique. Ce sont les trois piliers de la révolution agricole. Il faut des agriculteurs performants.
Alors, payer mieux le paysan, ça risque d'être compliqué parce que vous dites payer celui qui produit, c'est dur à faire accepter, comme si la nourriture ne devait rien valoir puisqu'elle est vitale.
Oui, c'est l'idée que l'agriculteur est d'intérêt général et que finalement, eh bien, là, c'est un. Nous nous sommes habitués à ne manquer de rien. Nous sommes des enfants gâtés ou des enfants gavés. En réalité, vous pouvez jouer sur le prix de la nourriture soit par les quantités, soit par la décision, par exemple, de la restauration publique de privilégier des modèles de proximité où on va faire du court, du local, du bio. C'est tout à fait possible. Mais vous savez bien que quand vous dirigez une cantine ou une maison de retraite, vous allez regarder le critère du prix. Et finalement, on va demander à nos agriculteurs d'être parfaits et on va importer de plus en plus en provenance de pays qui respectent pas du tout ce qu'on demande sur les normes sociales ou sur les normes environnementales, dès la nourriture, sur le seul critère du prix. Alors, ça veut dire qu'il faut être très interventionniste dans l'agriculture et il ne faut pas renvoyer les agriculteurs ni au passé ni à la pénibilité.
Ah, très interventionniste dans l'agriculture, ça va peut-être converger avec certaines des propositions de Mathieu Calame. Mathieu, vous faites un peu le même constat sur la prise de conscience. Avec tous les événements qu'on a déjà cités, vous dites, ça a mis en évidence notre double dépendance aux produits agricoles importés, alors que la confiance dans le commerce mondial diminue, et dépendance aussi aux fossiles, aux engrais qu'il faut pour fabriquer, alors qu'on connaît tous leurs effets nocifs sur l'environnement.
Oui, tout à fait. En fait, le processus agricole, il s'est industrialisé pendant deux siècles, comme ça a été décrit. Il partage la même puissance et les mêmes travers de l'ensemble de l'activité industrielle, notamment une dépendance à un certain nombre de ressources naturelles dont on va devoir se passer, soit parce qu'elles sont en voie de disparition, soit dans le cas de ce qu'on appelle l'énergie fossile, mais qui est de la biomasse fossile, enfin des hectares fossiles d'il y a plusieurs millions d'années, on va devoir s'en passer du fait du dérèglement climatique et de ses effets qu'on voit d'ailleurs déjà avec les sécheresses. Donc oui, effectivement, il va falloir écologiser la société et une société écologique devra produire une agriculture écologique.
Alors effectivement, c'est la différence avec Sylvie Brunel. On sent bien que vous êtes plus pragmatique et que vous dites, avec l'innovation, finalement, le génie créatif des paysans, on peut améliorer le modèle existant. Vous dites non. Ce modèle, il est à bout de souffle. Comme le modèle industriel, finalement, est un peu en bout de course. Et donc, il faut changer radicalement notre façon de penser. Alors, comment, justement, on s'y prend? C'est-à-dire que, quelle est, finalement, la logique de ce nouveau modèle que vous proposez, cette révolution agroécologique? On l'a fait comment?
Alors, d'abord, le pragmatisme, ça dépendra de l'avenir. C'est l'avenir qui dira qui était pragmatique.
Ouais.
C'est une pétition de principe de considérer qu'une position est plus pragmatique que l'autre. Je pense que ma position est extrêmement pragmatique et fondée effectivement sur 50 ans de recherche sur l'état de l'environnement.
Non, mais l'idée, c'est qu'il y a la pérennisation du mode de fonctionnement actuel qu'on peut perfectionner.
Mais quand vous êtes dans l'impasse, c'est pas pragmatique de continuer tout droit.
Est-ce qu'on
en général,
est dans l'impasse?
Vous retournez. Voilà. Ouais. Et c'est ça la question. C'est peut-être la question qui est en débat. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent que un système qui, grosso modo, s'est mis en place, je dirais, idéologiquement au XVIIe, XVIIIe siècle, pratiquement au XIXe siècle, dans lequel d'ailleurs l'Allemagne a joué un très grand rôle. La chimie allemande a été très puissante et ce système-là arrive à bout de souffle. Je parlais tout à l'heure des hectares fossiles. En fait, nos sociétés vivent avec un excédent de fertilité qui a plusieurs millions d'années. En quelque sorte, c'est une image, hein, mais quand vous tournez la clé de contact de votre voiture, vous brûlez des bûches qui ont plusieurs millions d'années et on ne pourra plus utiliser ce capital-là. Et donc, effectivement, il va falloir faire autre chose. Faire autre chose, c'est
je cite juste une parenthèse justement avec une réflexion que j'ai trouvée très très profonde. Vous dites dans l'agriculture pré-industrielle, l'agronomie augmentait la productivité de chaque exploitation. Vous dites dans l'agriculture industrielle, l'agronomie augmente la productivité de façon exogène avec l'apport finalement de beaucoup d'engrais, d'intrants, d'hydrocarbures, etc. Voire les échanges aussi, et on n'est plus du tout dans le même modèle.
On n'est plus du tout dans le même modèle, notamment parce que souvent, alors c'est ce qu'on croyait encore au XVIIIe siècle, c'est pour ça que l'agriculture est considérée comme une activité dite primaire. En réalité, l'agriculture industrielle pour produire a besoin de toute une industrie amont. Elle a besoin des champs de pétrole de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Elle a besoin du gaz russe et qatari pour faire des nitrates. Elle a besoin de matériel agricole. Donc en fait, l'agriculture maintenant est un maillon dans une chaîne industrialisée qui, encore une fois, a démontré une très très grande efficacité dans des tas de domaines. Ça, c'est incontestable, mais qui va devoir être réformée profondément.
Donc,
avec un souci de sobriété qui va être commun pour tout le monde. Notre président nous a bien prévenu que c'était la fin de l'abondance.
Alors, j'aimerais, avant que vous nous expliquiez quand même les grands principes d'une politique agroécologique, il y a toute une partie de votre livre, le début, qui est passionnant sur le bilan que vous faites des politiques agricoles modernes, entre guillemets, sachant que la première politique agricole moderne, dites-vous, c'est celle qu'a menée le Danemark. Quel bilan on peut tirer? Parce que s'il y a bien un secteur qui a évolué en fonction de toutes les politiques qui ont voulu le régir, c'est quand même l'agriculture.
Oui, en fait, bon, le monde paysan, il disparaît dès le 19e siècle, en réalité, puisque la société paysanne produit aussi bien, c'est aussi les artisans. Donc, le début de l'industrialisation de l'agriculture, c'est quand le monde rural perd tout son artisanat, et donc, il y a un nouveau modèle qui se met en place, qui est un modèle industriel. Et effectivement, le grand débat qu'il y a eu, qui avait des connotations d'ailleurs extrêmement politiques aussi, c'est faut-il finalement industrialiser l'agriculture comme on a industrialisé l'artisanat ? Alors, il y avait des raisons politiques, c'est-à-dire qu'il y avait très peur de la contamination rouge. Et donc, on veut, globalement, et le cas du Danemark, d'ailleurs, est assez intéressant, puisque ils ont ils décident finalement de sacrifier les grands propriétaires au profit de ce qui était à l'époque la classe moyenne dans l'espace rural, les propriétaires médians, pour les spécialiser, pour les accompagner, et ils vont en fait freiner d'une certaine manière l'accumulation de capital en agriculture en détruisant en fait la grande propriété qui s'est reconstituée depuis. Alors ils le font au Danemark, mais évidemment la grande propriété dominait dans l'espace colonial puisque le sucre, enfin vous voyez. Et d'ailleurs le Danemark développe ce modèle-là, mais en ayant une agriculture de niche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'intègre dans ce qu'on appelle ce que les historiens appellent le food regime britannique. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner la production de céréales, se concentrer sur la transformation de céréales importées notamment de Russie, plutôt de la Baltique en général, puisque la Pologne produisait également et la Prusse. Et ils vont transformer, ou des États-Unis, ils transforment ces céréales en lait, en gros, et en cochon, pour faire vite, qui vendent sur les marchés en plein essor des métropoles industrielles, que ce soit anglaises et ensuite allemandes. Et effectivement, c'est ce modèle-là qui, au fond, va servir au XXe siècle de matrice pour tous les autres pays, puisque la Grande-Bretagne, elle, avait suivi un autre modèle qui était de dire on n'a pas besoin d'avoir de politique agricole parce qu'on a les colonies. Donc l'Inde, en fait, était un gros pourvoyeur de biomasse.
Alors, Mathieu Calam, quels sont les grands principes d'une politique agroécologique ?
Alors, les grands principes d'une politique agroécologique, elles doivent s'inscrire d'abord dans des principes d'économie générale. Hein. Donc, l'idée, c'est d'essayer de produire avec peu, c'est-à-dire que On évoquait tout à l'heure la fertilité. Le propre d'un écosystème, c'est qu'il produit avec rien, pour ainsi dire. Si vous prenez une forêt, évidemment, une forêt ne consomme pas de pétrole. Donc, la question va être de limiter les intrants et en même temps, et c'est là que je rejoins Sylvie Brunel, il faut que l'agriculteur puisse être, ou le producteur, ou le néo-paysan, je sais pas quel nom il aura, parce que ouais. Le mot agriculteur est une réalité sociologique d'un moment, et là le choix c'est entre agri-manager et néo-paysan, on va appeler ça le néo-paysan, s'il doit vivre, il doit pouvoir avoir une rémunération. Et là, tout le débat est le suivant, et qui est un débat assez compliqué, c'est que, comme vous avez... la production alimentaire, c'est pas la production de chaussettes, c'est-à-dire que vous pouvez, ou de voitures, vous pouvez décider d'accélérer un peu votre production, ou de la réduire selon le marché, quand ouais. vous êtes un producteur de chaussettes. L'aléa climatique va aller croissant et donc le problème qu'il y a en agriculture c'est que vous produisez structurellement en surproduction puisque le but c'est de couvrir les besoins alimentaires même une mauvaise année. Alors là ça veut dire que par définition le marché, les lois du marché peuvent difficilement rémunérer l'agriculteur puisque vous devez être en surproduction donc vous avez une tendance à baissière. Alors l'un des principes pour réguler les prix du marché, il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment l'intervention de la puissance publique, notamment en stockant et en déstockant. Exactement ce que font les banques, par exemple, qui vont réguler les cours des monnaies en produisant de la monnaie ou non. Sauf que là, on peut pas avoir une banque alimentaire centrale qui produit du blé quand il n'y en a pas, donc il faut avoir des stocks. Et d'où il faut avoir une politique publique de stockage. Donc on s'aperçoit à ce moment-là que la politique agricole doit être une politique alimentaire qui est beaucoup plus large que la politique agricole seule. Puisque la politique agricole a servi de politique alimentaire, en réalité, avec l'idée que on va saturer le marché, en fait, en produisant surabondamment... on règle le problème de la faim. Et comme on ne pourra plus...
En utilisant moins de chimie, etc., la question que vous me voyez venir, c'est est-ce qu'on est capable de produire assez, d'avoir la productivité nécessaire pour nourrir finalement tout le monde ?
Alors, là-dessus, je pense que tous les analystes sont clairs. Ça s'accompagnera d'un changement de régime alimentaire. Il faut voir que un des effets de la surproduction structurelle de céréales est qu'on a augmenté formidablement la consommation de produits carnés. Historiquement, vous avez plusieurs types de régimes alimentaires, mais globalement, vous avez les chasseurs-cueilleurs qui mangent beaucoup de viande et les peuples sédentaires qui mangent très peu de viande. Et on est dans ce paradoxe qu'on a créé une société sédentaire qui mange beaucoup de viande. Les populations chasseurs-cueilleurs sont très peu denses, les populations sédentaires sont denses. Donc de toute façon, la quantité de viande et de produits animaux est la grande variable d'ajustement. Puisqu'en gros, si vous prenez la sole française, vous avez 70% des céréales et oléoprogéneux qui vont à l'alimentation animale.
Alors Sylvie Brunel, elle vous répondrait que dans le monde, globalement, il y a plutôt un déficit. Je voudrais pas vous me faire...
Totalement,
parce que
tout à fait.
Vous dites globalement, il y a plus de gens dans le monde qui finalement qui souffrent d'un manque de protéines animales que de gens qui sont victimes d'un excès, en quelque sorte.
Oui, et surtout en France, on a la moitié de la superficie agricole qui sont constituées de prairies qu'on ne peut pas céréaliser parce que leurs sols sont pauvres, c'est des pentes, c'est extrêmement... C'est vrai en Suisse aussi, d'ailleurs.
Alors... Que les Européens mangent trop de viande et que d'autres pays puissent en manger un peu plus, c'est tout à fait possible. Je ne conteste pas. Là, je parlais de la question européenne, mais à la question que vous posez, est-ce qu'on nourrira tout le monde ? Il est clair que si on se nourrit de manière très végétarienne, et notamment c'est le rôle essentiel du soja, parce que le soja est une légumineuse qui a un acide aminé qui est la lysine, qui est un acide aminé qu'on a peu dans les légumineuses européennes. Donc si vous regardez les grands pays végétariens ou quasi-végétariens, ce qui était le cas de la Chine notamment, c'est des endroits où la culture du soja est très présente. Mais effectivement, si demain le soja du Brésil était utilisé pour nourrir les populations mondiales, on n'aurait pas de déficit protéique.
Mais, vous voyez l'objection qu'on va vous faire, c'est-à-dire les préalables pour qu'on puisse mettre en place finalement ce qui est effectivement sur le plan des techniques agricoles tout à fait réaliste, c'est le changement de société que ça nous impose.
Bien sûr.
Ça fait peur.
Bien sûr, mais le changement fait toujours peur, mais l'industrialisation du monde est un changement qui a fait disparaître des tas d'organisations sociales. Oui, je ne cache pas que la marche est haute. Après, quand vous êtes sur un escalier et que vous êtes l'escalier est en train de s'effriter sous vos pas, même si la marche est haute, vous la franchissez.
Parce quel que sinon, signe vous décelez qu'on va finalement dans le sens de la révolution que vous encouragez?
Disons qu'on peut voir un certain nombre de signaux faibles. D'abord, évidemment, un consensus croissant dans le monde scientifique. Alors après, est-ce que nos sociétés vont écouter les organes scientifiques? Ça, c'est une autre histoire. Des sociétés qui ont disparu, il y en a des tas. C'est peut-être notre destin. C'était la question que posait Jared Diamond de savoir si l'effondrement était notre destinée. Mais a priori, on a maintenant un consensus très large dans le monde scientifique. Et comme le monde scientifique est l'institution créée par nos sociétés pour dire ce qu'est le monde, a priori, on devrait les suivre.
Non, mais le message que vous délivrez, qui est très puissant, c'est de dire on peut nourrir tout le monde en étant, effectivement, moins orthogonal aux intérêts de la planète.
Tout à fait. De toute façon, l'avantage de faire un modèle comme ça, c'est que ce n'est pas une prophétie. Je ne sais pas ce que demain les hommes font. C'est-à-dire qu'il est très clair que quand on parle de nourrir le monde, il faut être très clair. Un monde en guerre se nourrira pas. C'est-à-dire que si les relations internationales se dégradent, c'est sans doute pas les Français qui demain iront nourrir des pays en guerre totale. Donc la paix, et ça c'est historique, c'est la paix est un préliminaire avant qu'on puisse se nourrir. Simplement, l'avantage de dessiner un modèle, c'est de voir qu'il y a une alternative possible. On n'est pas condamné simplement à faire ce qu'on a fait comme toujours et qui nous mène au désastre.
Voilà, et ben on vous a présenté un petit peu deux visions de notre avenir et des choix qui se présentent à nous, finalement, pour continuer à nous nourrir en respectant, bien évidemment, la planète sur laquelle nous vivons. Le livre de Sylvie Brunel, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Mathieu Calam, La Révolution agro-écologique, se nourrir demain, c'est aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous expliquer vos visions de l'agriculture de demain.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaïm, notre globetrotteur, Eva Jaco, qui clôturera la grande saga Sulitzer aujourd'hui dans son rôle de bibliothécaire. Et puis nous retrouvons tout de suite nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, patronne au 18e siècle. Le livre de Camille Desjardins, c'est aux éditions du Nouveau Monde.
Oui, des chefs d'entreprise, femmes, des chefs d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais alors on se dit au 18e siècle, encore moins. Détrompez-vous, l'historienne Camille Desjardins, qui nous avait déjà donné un magnifique ouvrage très passionnant sur Marguerite Blackie, on devrait dire, parce qu'elle est française, même si elle a pris un anglais, il y a quelques années, là, fait l'ensemble du panorama du 18e siècle et nous montre que des femmes chefs d'entreprise, en ce siècle-là, très dominé pourtant par les hommes, il y en avait beaucoup. Donc bien sûr, la première chose à faire, c'est comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut les retrouver. Et ben, pour Marguerite Blackie, par exemple, c'est les faillites ou la banqueroute, et donc on a le tribunal, les actes notariés qui vont montrer que finalement, il y a beaucoup de maris qui vont autoriser leurs femmes à diriger leur entreprise ou d'autres entreprises. Les veuves, en fait, qui, libérées de la contrainte des maris, vont pouvoir être des femmes d'entreprise assez importantes. Alors, il y aura aussi normalement les jeunes femmes célibataires, mais il y en a moins. Nous dit l'autrice. Alors, c'est vrai que le livre, c'est surtout une compilation, un rassemblement d'études qu'on connaît déjà pour la très grande part et pour la majorité, et pour mon sens, à mon sens, la partie la plus intéressante du livre. On passe en revue, bien évidemment, Marguerite Blackie, parce que Camille Desjardins nous avait fait déjà un livre. C'est une femme qui a été mise en banqueroute pas à juste titre du tout, par son mari qui l'a attaquée. Et donc, elle s'est défendue, elle a mobilisé, était capable de mobiliser tout un réseau professionnel pour l'aider. et de ce fait, pour arriver à être réhabilitée, elle était emprisonnée, hein, parce qu'à l'époque, la banqueroute, c'est la prison. Donc, elle a pu se réhabiliter. Elle vend des articles de mode anglaise qui font fureur à l'époque, au 18e, à Paris. Elle arrive, et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de cette femme fabuleuse. Alors, bien sûr, il y a Madame de Marèze, qui était en gros la directrice générale d'Oberkampf. Oberkampf n'aurait pas duré aussi longtemps s'il n'y avait pas eu cette femme absolument extraordinaire pour tenir les comptes, la finance, les taux de change. En fait, c'est son mari qui avait été embauché, mais il se trouve incompétent et il épouse cette dame parce que c'est une fille de commerçant dont il sait qu'elle sait faire de la comptabilité. Il l'épouse pour ça.
C'était quoi Oberkampf, Christian ?
Ah bah c'était les manufactures de toiles de Jouy, c'était le tout, de tout le textile à la fin 18e, début 19e. Donc la société n'a pu exister que grâce au travail de Madame de Marèze et de son mari qui se sont d'ailleurs enrichis même quand Oberkampf s'est débarrassé du couple. Amélie de Dietrich qui devient veuve et qui la société de Dietrich n'existe aujourd'hui que grâce à elle parce qu'elle a remonté la boîte. Madame d'Ayange, Rose Bertin, la grande modiste de Marie-Antoinette, bien évidemment. Donc quand on a la reine parmi ses clientes, mais on s'aperçoit, et le livre nous montre bien en s'appuyant sur les études déjà existantes, qu'elle avait vraiment, elle dirigeait un gros atelier. Voilà, on passe en revue au livre de l'Estonac, je pense qu'il a dû plaire à Jean-Marc, parce que cette grande entrepreneuse, alors c'est un peu avant, bordelaise, qui va construire Château Margaux, en fait, grâce à son père, elle va compléter, mais c'est Claire Lemao qui nous avait déjà renseigné. Bref, Camille Desjardins nous rassemble un peu toutes ces femmes entrepreneuses, elle en rajoute quelques autres un peu moins connues, mais c'est pas grave, même les moins connues, l'ensemble montre que dans cette société très masculine, où a priori les femmes n'ont rien le droit de faire, et surtout pas du business, ces femmes ont toutes, notamment, non seulement bien géré, il y a un ou deux cas où bien sûr le truc s'est planté, parce que ça arrive aussi aux femmes, c'est normal, que ça arrive aussi à elles et pas seulement aux hommes, mais elles ont su trouver leur autonomie, et c'est ça qui est intéressant dans le livre.
Jean-Marc Daniel, avez-vous aimé ces patronnes du 18e siècle ?
18e siècle, tout de suite, j'étais a priori très favorable. Ouais. Et je ne cache pas que j'ai été déçu. D'abord, au début, Christian l'a dit, elle explique comment elle a constitué son panel de femmes. Alors c'est assez fastidieux, c'est long, c'est assez confus. Elle fait des références. Quel est le métier d'historien? Comment elle devient historienne? Elle rend hommage à ses maîtres. Bon, on perd beaucoup de temps. Jusqu'à la page 50, pratiquement, on se perd dans ses considérations sur qu'est-ce qu'être historien. Et puis ensuite, alors effectivement, elle parle de... Il y a énormément de coquilles. En plus, en particulier, le couple qui est associé au Oberkampf est annoncé comme avoir été anobli sous Louis XVIII. Alors c'est assez difficile d'avoir été anobli sous Louis XVIII au 18e siècle. Non, c'est une coquille. On voit bien. En fait, c'est Louis XIII. Il y a un 5 qui s'est glissé là. Mais il y en a beaucoup de ce genre de coquilles. Donc, il y a un travail d'édition qui n'est pas au rendez-vous. Et puis, alors après, moi, je pensais qu'il y aurait davantage de portraits. La veuve Clicquot, qui est quand même un personnage dont on n'a pas parlé, Christian, mais qui est quand même une personne. Elle a droit à une page et demie.
Parce qu'on la connaît bien, déjà.
Oui, enfin, bon, tout ça. Et donc, ça manque à la fois de cohérence, un peu d'anecdotes, un peu de ce qui... C'est des personnages, c'est des personnalités. Effectivement, elle le dit bien, pour exister à cette époque-là, il fallait, étant une femme... En plus, la plupart ne sont pas nobles. Parce que il y a des femmes qui ont fait fortune, mais parce qu'elles étaient nobles, donc elles pouvaient... Bon. Et finalement, je ne veux pas paraître snob et tout ça, mais les extraits les plus intéressants que j'ai trouvés, ce sont les extraits des liaisons dangereuses qu'elle cite deux ou trois fois. C'est la marquise de Merteuil, qui est le symbole de la femme émancipée. Et je trouve que ce que disait Laclos sur le statut des femmes est beaucoup plus précis que finalement ce qu'on dégage de ses propres travaux.
Et les deux, trois profils qui vous ont quand même séduit ?
Alors, celui qui m'a séduit, c'est effectivement Madame de Marèze. Et puis, Madame Bertin, effectivement, c'est un personnage qui... La Bordelaise, c'était moins...
C'est parce qu'on a moins d'informations sur elle aussi. Pierre Lemao a fait un travail remarquable, mais on n'a pas beaucoup d'informations.
La Bordelaise, on a du mal à cerner exactement ce qu'elle le rôle, elle jouait, tout ça. Et bon, déception quand même.
Bon, alors on passe à votre choix, Jean-Marc. Bon, vous n'avez pas pris beaucoup de risques, hein, vous, avec... on est surprenant, les patrons du XVIIIe siècle. La turbulence dans l'économie mondiale, du solide, du costaud. C'est aux éditions de Bouec et c'est écrit par Laetitia Baldecci, Juliette Cohen et Bastien Dru. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un livre très pédagogique, très solide, qui est écrit par trois économistes de banque, trois économistes de marché. Et je trouve intéressant parce que ils sont très prudents, ils avancent sur des œufs, ils citent énormément de gens.
Oui, vous aviez déjà précisé que c'était des économistes de banque.
Oui, donc ils avancent, ils disent, voilà, machin a dit ça et ça. Et ils essaient d'identifier, effectivement, depuis, grosso modo, entre 2008-2009, ouais. La séquence de turbulences qu'a traversé l'économie mondiale, donc 2008-2009, la crise des dettes publiques en Europe, puis ensuite la Covid, la guerre en Ukraine. Bon, et ils disent, voilà, quels sont les enjeux qu'il y a maintenant. Donc, ils listent ça. Alors, je suis pas d'accord avec tout. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle, qui est sur la nocivité des politiques d'austérité.
Je pense que
Christian allait bondir là-dessus. Bon, évidemment, je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est fait de façon très pédagogique, très claire, ouais, très et très humble. C'est-à-dire, ils disent, voilà, machin pense ça, voilà. Et donc, je pense que c'est à la fois très représentatif de ce qu'est le métier d'économiste au contact de la réalité, parce qu'ils sont au contact de la réalité, ils ont des clients, ils exposent à des clients les enjeux, donc ils parlent du vieillissement, du réchauffement climatique, de pénurie de matières premières, de ces enjeux qui sont immédiats, et ils leur apportent aussi bien à leurs clients qu'à nous les réponses que le langage courant, la pensée courante économique apporte. Donc je trouve ça à la fois utile, humble et tout à fait passionnant.
Bon, très bien. Christian Chavagneux.
Alors, c'est vrai que c'est très bien écrit. Les économistes écrivent pas souvent clairement, et là, c'est vraiment le cas. Tout est lisible, tout est compréhensible. Ça, c'est vraiment le vrai point fort du livre. Je pense que le livre, en même temps, a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire c'est d'autant plus facile d'être bien écrire que le propos est léger. Et moi, j'ai trouvé que sur les 13 sujets qui étaient traités, le propos est vraiment quand même très léger. Je pense que si vous lisez Alternative économique ou si vous lisez n'importe quel journal économique qui vous plaît,
pour l'Écho par exemple,
je ne sais pas si vous apprenez grand-chose à la lecture des 13 chapitres. Il y a des fois où c'est vraiment très bizarre. Vous avez un chapitre sur la démondialisation. Est-ce que on entre sur la démondialisation ou pas. Et ils font l'erreur classique de tous les économistes de mesurer la mondialisation par le commerce extérieur sur PIB. Ouais. Imaginez que toutes les multinationales du monde entier reviennent dans leur pays d'origine et se mettent à exporter. Vous auriez une explosion des exportations et pourtant une mondialisation complètement rabougrie. Et faut attendre 2-3 chapitres plus loin pour avoir un chapitre sur les chaînes de valeur. C'est là qu'est la mondialisation ou pas. Est-ce que les chaînes de valeur se raccourcissent, se régionalisent, se nationalisent ou pas? Et les deux chapitres sont écrits indépendamment les uns des autres. Sur les matériaux critiques, par exemple, sur les fameuses terres rares, qui sont pas si rares que ça, parce qu'au fur et à mesure, on en découvre qu'à part une ou deux, il y en a à peu près partout. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe, la France, doit redevenir une puissance minière? Est-ce qu'il faut creuser ou pas? La question n'est même pas posée. En fait, le problème du livre, il est dès l'introduction. Il y a eu une hésitation entre est-ce que le système capitaliste actuel reste et va rester le système capitaliste actuel. Il va subir quelques turbulences, un peu de volatilité. Plusieurs auteurs ou autrices disent « Oh, là, sur tel ou tel thème, il y a de la volatilité. » Donc, on s'éloigne de l'équilibre, on revient. Ou bien, est-ce que les transformations, et pour certaines, c'est très sur la démographie, par exemple, c'est très clair que les transformations sont structurelles. C'est pas simplement que ça change un peu par rapport à hier. On change de monde. Et donc, est-ce que les 13 chapitres auraient dû nous dire « Bah, vous inquiétez pas, le système capitaliste actuel ne change pas, ça va peut-être un peu secouer, mais va rester le même. » Ou bien, on est en train de vivre des transformations telles que c'est un nouveau régime capitaliste qui est en train de se mettre en place. Et d'un chapitre à l'autre, on est d'un côté de l'autre, le choix n'est pas fait, et du coup, il manque un fil rouge qui fait que ces 13 dossiers sont traités de manière complètement indépendante, alors que je pense qu'ils auraient mérité une structuration intellectuelle pour aller bien ensemble et nous dire, au fond, le capitalisme change ou pas. Malheureusement, la question n'est même pas posée.
Oui, c'était pas l'enjeu du livre, donc.
L'introduction pose cet enjeu. Turbulence ou bien changement structurel.
C'est ça, quand vous avez écouté les économistes de banque, une fois que vous les avez écoutés, vous savez toujours pas quoi penser. On les adore,
les économistes de banque.
Non, c'est vrai qu'ils prennent. Non, on peut quand même. Mais on comprend. Vous l'avez expliqué très bien, Jean-Marc. Ils ont des clients. Ils sont pas. C'est pas des journalistes qui peuvent se permettre.
On a une forme d'attente. Et là, le livre répond bien.
Il y a une forme de responsabilité qui fait qu'ils ne peuvent pas effectivement. Sans doute prendre des positions trop affirmées. Merci beaucoup, chers amis, à tous les deux. Et on retrouve tout de suite notre bibliothécaire Eva Jacquot pour clôturer notre saga Paul Loup Sulitzer.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Eva.
Bonjour Emmanuel.
Eva Jacquot, journaliste à BFM Business. Et donc nous poursuivons la saga Paul Loup Sulitzer que nous avions démarré il y a deux numéros de la librairie de l'Écho. Vous allez donc continuer à nous conter les aventures de son héros, Franz Imbali. Mais bon, allez, si quelques-uns ont loupé le premier épisode, rappelez-nous rapidement qui est Paul Loup-Sulitzer, pourquoi son œuvre, finalement, quelque part, a été marquante.
Oui, Paul Loup-Sulitzer a influencé toute une génération, on en avait parlé. C'est l'écrivain d'une époque, une grande figure des années 80 et maître de ce nouveau genre littéraire qu'on appelle le thriller financier ou western financier. Il a publié 35 livres vendus à 43 millions d'exemplaires à travers le monde. Et donc, on a vu la dernière fois le début de la trilogie avec Money, vrai best-seller à l'époque. Aujourd'hui, place à la suite des aventures avec Cachet Fortune.
Cachet Fortune qui sortent en 1980 et 1982. Où en est-on alors donc des aventures du jeune Franz Imbali?
Eh bien, rappelez-vous, à la fin de Money, Franz Imbali avait mis son adversaire au tapis, le fameux banquier suisse, et celui-ci, il va se venger dans Cash, et les deux vont se livrer un combat financier hors norme à travers le monde. Franz Imbali, pour lutter ce piège qu'il sent venir, eh bien, il diversifie ses business. Il s'engage sur le marché spéculatif de l'argent métal, celui du café et du pétrole. Il monte un safari géant en Floride dont l'investissement s'élève à 600 millions de dollars. C'est un peu un parc d'attractions version Disneyland Paris, ou encore une affaire de cours de tennis sur les toits qu'il appelle tennis dans le ciel. Alors, des tas de problèmes vont lui tomber dessus. Il finit presque ruiné, mais il rebondit dans le dernier tome, dans Fortune, avec en ouvrant un hôtel casino à Atlantic City nommé Éléphant Blanc.
Alors, ce Franz Imbali, on voit bien, c'est un peu la même famille de héros que Largo Winch, par exemple, dont les BD, effectivement, sont aussi très connus. En fait, on a l'impression qu'il y a deux héros dans les livres de Paul Loup-Sulitzer. Il y a ces personnages, mais il y a surtout les mécanismes de ce capitalisme financier qui l'explique de façon quand même extrêmement imagé et pédagogique.
Exactement, c'est un petit peu la finance pour les nuls. Il explique le béaba avec des termes très simples et compréhensibles. Il explique toutes ces transactions, il définit les appels de marge auxquels il répond dans l'affaire du café, notamment les spéculations sur l'argent métal ou encore le fonctionnement des banques privées. Et il donne des explications très précises de ce qu'est un marché à terme. Ouais. Et il explique aussi la spéculation en prenant des exemples très simples. Par exemple, pour expliquer cela, il parle d'un kilo de haricots verts. Alors lui s'est engagé à acheter des tonnes de café, 15 000 tonnes précisément, en jouant à la hausse sur les marchés du Robusta à Londres et de l'Arabica à New York. Or, le prix du café a baissé et c'est là qu'il entreprend de faire une vente à réméré. Je cite, le vendeur se réserve le droit de racheter dans un délai convenu entre les parties ce qu'il a vendu. Alors, idem dans Fortune, où il livre en fait une étude très fine du fonctionnement interne d'un casino avec une enquête basée sur le Caesar Palace de Las Vegas.
Voilà, c'est un auteur qui a marqué son époque. C'est un peu comme Guillaume Musso. Exactement. Aujourd'hui, mais à l'économie, quoi.
Exactement, voilà, c'est un peu
le business et la finance populaire. Merci beaucoup, Eva Jacot. C'était très sympa, cette saga Paul Loup-Sulitzer. On retrouve notre globe-trotteur à nous, qui n'a aucun rapport avec Paul Loup-Sulitzer. Il aurait pu faire partie des romans de Paul Loup-Sulitzer, certainement. On aurait pu le croiser au détour d'une direction d'études économiques ou d'une grande institution internationale. Oui, Ben Aouda, il aurait été dans une grande institution internationale. C'est Ben Aouda Abdelhaïm, notre globe-trotteur.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Ben Aouda, bonjour.
Bonjour.
Ben Aouda, on démarre avec Washington qui surestime la faiblesse de la Chine.
Oui, c'est Si le survivant, le titre, une publication, on parle très classique Foreign Affairs, mais qui est vraiment à contre-courant d'une thèse de plus en plus majoritaire aux États-Unis. Christopher Johnson, qui est le président d'un cabinet de conseil à Washington, le China Strategies Group, il a précédemment travaillé, entre autres, comme analyste principal à la CIA sur les dynamiques économiques de la Chine, et il entend démontrer ici que Xi Jinping parvient en fait à maîtriser les intentions de ses adversaires aussi bien en dehors
qu'à l'intérieur de son pays. Nombre d'analystes occidentaux, nous dit-il, jugent que différentes décisions du président chinois ces dernières années mènent son pays à la ruine et mettent en péril la sécurité internationale. L'auteur américain estime, lui, que la dure vérité, je cite, c'est qu'il est trop tôt pour porter des jugements aussi définitifs, qu'il s'agisse de sa manœuvre risquée, très risquée, pour désendetter le secteur financier national, ou bien son affirmation d'un modèle de développement économique qui serait unique à la Chine. Soutenir d'ores et déjà que sa doctrine de modernisation à la chinoise est vouée à l'échec serait donc à tout le moins prématurée. Mmh. Et l'analyste n'adhère pas, en fait, non plus au récit sommaire, tout à fait sommaire à ses yeux, d'une nouvelle guerre froide, parce qu'elle occulte que l'approche de Xi Jinping place les organes de sécurité sous un contrôle civil plus strict. C'est le civil qui est au-dessus du militaire, contrairement à l'idée qu'on se ferait. Xi Jinping, par son obsession, je cite, de la domination du Parti communiste, joint ainsi de nouveaux arrangements institutionnels à son pouvoir brut. Christopher Johnson explique aussi comment ce président, contrairement à ses deux prédécesseurs, Hu Jintao et Jiang Zemin, conduit la plupart de ses grands paris en contrant de puissants groupes d'intérêts internes. Mmh. Comment ? Alors, en jouant les uns contre les autres, les bureaucraties et les possibles centres de pouvoir rivaux. Mais selon lui, le risque pour le pouvoir central est que maintenant germent des fiefs autonomes.
Vous nous racontez, Belaouda, ensuite un travail qui mesure la guerre technologique États-Unis-Chine et ses effets sur l'Europe.
Alors, le mois dernier, à l'adresse des Européens qui se plaignent, il s'est peut-être passé inaperçu, un conseiller principal de Joe Biden a lancé que les États-Unis ne s'excuseront pas du fait que l'argent du contribuable américain doive aller à l'investissement et à l'emploi américain. Mmh. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Une déclaration qu'elle mérite de rappeler aux pays européens, si besoin est, qu'ils ne représentent que des paramètres tout à fait annexes dans la guerre technologique que se livrent les deux plus grandes économies mondiales. Dans ce travail, Enrique Feas, qui est chercheur à l'Institut Royal Elcano de Madrid, analyse à quel point, d'après lui, les incitations massives américaines et chinoises, sous forme de subventions et d'avantages fiscaux, déséquilibrent dangereusement le jeu pour l'Union européenne. L'auteur traite d'abord en détail le combat sino-américain titanesque dans les semi-conducteurs et dans sa dizaine de chaînes de valeur qu'il donne un découpage très instructif. Ouais. Pour Enrique Feas, l'origine du conflit a deux causes reliées, économiques et politiques. Tout partirait dans cette lecture du plan Made in China 2025 qui avait été présenté en mai 2015 à Pékin, qui vise à ce que la Chine s'oriente vers la production de biens à forte valeur, intensité technologique. On a ensuite une synthèse très précise de l'engrenage de mesures américaines de contre-offensive sous les administrations Obama puis l'administration Trump. Il relie les deux et jusqu'à parvenir aux deux législations majeures actuelles de la présidence Biden sur les subventions vertes et sur les puces. Le souci pour l'UE, c'est d'une part qu'elle ne serait aucunement préparée à cet aboutissement d'un processus américain et qu'il semble que ces États membres n'aient pas le courage, je cite, d'assumer la nécessité d'un plan dynamique de financement conjoint. Pour l'auteur, il est l'heure maintenant de courir le risque et de simplifier les règles, la bureaucratie européenne, sinon une dépendance stratégique s'annonce pour des décennies.
Direction le Nigeria pour terminer, Belaouda. La croissance économique a-t-elle réduit la pauvreté ?
Une analyse critique. Alors, Bola Tinubu, qui est le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré le 1er mars vainqueur de la présidentielle. Le Nigeria, premier producteur brut d'Afrique, devrait devenir le troisième pays le plus peuplé au monde dans un quart de siècle seulement, avec une multitude d'interrogations quant à son avenir. Trois économistes de la capitale nigériane, une du Centre d'études des économies africaines et deux de l'Université d'Abuja, ont travaillé sur les deux dernières décennies d'une croissance économique significative, voire très significative, avec, en dehors de la place centrale des hydrocarbures, d'extraordinaires succès nigérians, que nous avons déjà pu aborder ici sur notre antenne, dans l'industrie des matériaux ou encore dans les technologies de l'information. Pourtant, aussi bien les taux de pauvreté que les niveaux d'inégalité sont restés élevés, la dégradation s'est même accélérée. 53% des personnes au Nigeria vivent sous le seuil de pauvreté, à $1,90 par jour, et à une vitesse plus rapide encore dans dans les zones rurales. Christine Olasodé et ses collègues décortiquent ici les raisons de cette quasi-absence de transmission entre croissance et richesse. La notion de PIB par habitant, nous explique-t-il, apparaît pratiquement vidée de sens. La création de postes de travail formels n'a que très peu suivi. Et les auteurs préconisent une diversification de l'économie impulsée par l'État fédéral, un investissement massif dans les services publics et une politique structurée d'aide sociale. Le président élu Tinubu, qui appelle ses deux concurrents malheureux à faire équipe ensemble, aura donc très vite à se prononcer sur ce très vaste programme pour le quart de siècle qui arrive.
Passionnant. Merci beaucoup, Benin Houda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai choisi la dernière publication de Robert Boyer dans la collection des classiques Garnier, qui est une collection très originale. Ils éditent, ils rééditent des textes de Marshall, des textes de Jevons. Et là, ils ont fait un florilège de textes de Robert Boyer autour de la macroéconomie et l'histoire. Donc, tous les textes sont des textes qui ont déjà été publiés. Certains dans des revues assez confidentielles, donc ça permet de les découvrir. Et avec ce fil conducteur, qui est l'idée forte du livre et de Robert Boyer, que on ne peut pas faire d'économie sans avoir fait de l'histoire, sans mettre en parallèle, en permanence, ce que l'on affirme avec une vérification expérimentale par l'histoire. Donc, certains textes sont un peu, comme toujours avec Robert Boyer, assez ardus, mais d'autres sont passionnants. Donc, c'est un livre tout à fait estimable.
Très bien.
Un livre très intéressant parce que Robert Boyer nous explique que l'économie est fille de l'histoire. Il n'y a pas une théorie globale qui pourrait être appliquée. C'est pas de l'expérimentation. On a notre théorie, puis on va voir si en Antiquité, au Moyen-Âge et maintenant, notre théorie elle fonctionne. Robert Boyer dit que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Chaque théorie est la fille de l'histoire, contrairement à l'économie que défend Jean-Marc traditionnellement. Je suis bien content qu'il défend ce livre de Robert Boyer. Et moi, pour ma part, j'ai choisi un autre livre qui va plaire aussi à Jean-Marc, puisque c'est le dernier livre de Serge Audy. Alors, il est sorti fin 2022, mais comme ça, un pavé, il m'a fallu un petit peu le temps pour le dire, et qui porte bien sûr sur le néolibéralisme. Alors je sais que Jean-Marc s'excite à chaque fois qu'on entend le mot néolibéralisme. Il a tort, parce que Serge Audy et d'autres ont bien montré que c'est un objet intellectuel et d'enquête et d'études intellectuelles. Et là, Serge Audy, donc c'est le premier volume qui nous a annoncé déjà 500 pages très érudites d'un deuxième volume qui doit arriver bientôt et qui reprend les thèses traditionnelles de Serge Audy, à savoir qu'au moment où il y a eu la crise du libéralisme dans les années 30 et après la guerre, il y a eu plusieurs formes de nouveaux libéralismes. Il y a plusieurs néolibéralismes. Il y a une formule qui s'est imposée. En gros, pour aller très vite, je caricature celle de Hayek, mais il y en avait plein d'autres, et aujourd'hui, il pourrait y avoir un vrai débat chez les néolibéraux, pour savoir s'il n'y a pas d'autres formes de néolibéralisme qui pourraient et qui mériteraient d'être développées.
Mon Dieu, Christian, déjà que vous mettez deux libéraux ensemble, ils ne parlent pas du même libéralisme.
Ah là, il y en a au moins trois.
Eh ben, dites donc, ça promet. Moi, je termine. Et oui, toujours dans la veine, alors qui est très riche en ce moment, la veine de tous les ouvrages de pédagogie économique qu'on essaie de rendre le plus accessible, le plus lisible possible, souvent sous une forme extrêmement chatoyante, j'ai envie de dire, beaucoup de BD. C'est un peu dans le même esprit que le livre de l'émission On n'arrête pas l'écho. Voilà, alors c'est dans la série Le Grand Cours, c'est une collection de la maison Hachette Pratique, et là, c'est consacré donc à l'économie, Le Grand Cours, les grands sujets pour comprendre notre monde. Donc vous voyez, c'est extrêmement bien illustré, et c'est des thèmes sur, voilà, on vous explique qui sont les grands économistes, produire, qu'est-ce que produire, qui produit, les entreprises, le profit, la croissance, les dépenses de santé privées, publiques, est-ce que l'État doit produire ou pas, etc. C'est vraiment passionnant, ça se lit très bien. Vous mettez ça sur votre table de salon et vous verrez que tout le monde viendra y picorer.
C'est très utile pour les étudiants parce qu'il y a des schémas. Ouais. Et ce qui est toujours difficile pour un étudiant en économie, ce sont deux profs en école préparatoire, c'est de faire les liens entre les différentes variables économiques. Et là, les schémas explicatifs, je trouve, aident bien. Et c'est, moi, je viens de terminer ce livre, j'ai trouvé très très bon.
Très bel effort, hein, en tout cas, de vulgarisation. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.